donner la dernière communication dans cette journée particulièrement bien remplie. Donc, je vais essayer de faire ça le mieux possible. À propos de l'ALENA, les opinions sur l'ALENA, en fait, sont très polarisées. Alors, soit on est très pour, et ça, c'est de la part des gouvernements, des gens d'affaires, des économistes qui sont à leur service, ou si on n'est pas tout à fait pour, en général, on va voir comme... On va se dire, il faut tout simplement l'améliorer. Hein. C'est défaillant, donc il faut l'améliorer. C'est le point de vue qu'on a entendu tout à l'heure. Et de la part du mouvement social, par contre, on est nettement plus sceptique. Alors, l'ALENA est un échec, n'a pas livré la marchandise et favorise outrageusement le droit des investisseurs devant les droits de la personne. Alors, c'est le point de vue que je vais défendre du mieux possible. Donc, je vais faire part de ce point de vue qui n'a pas été tellement entendu, je pense, aujourd'hui, avant cet atelier. Alors, d'un point de vue général, il est clair que de la part du mouvement social, l'ALENA n'a pas répondu à ses promesses d'apporter à tous la prospérité et de créer des emplois. Alors, depuis 20 ans, dans les trois pays, on observe une nette augmentation des inégalités, une stagnation des salaires, une dégradation de la qualité de l'emploi, une augmentation du nombre de travailleurs pauvres qui souvent vont cumuler des emplois mal payés. On observe une baisse nette de la qualité des services publics et une réduction importante du filet social. On observe aussi une dégradation considérable de l'environnement. Alors, tous ces problèmes, bien sûr, ne sont pas liés au libre-échange, mais par contre, ils le sont à l'idéologie qui soutient le libre-échange, c'est-à-dire déréglementer, privatiser, laisser les capitaux circuler librement, défendre une concurrence à tout prix. Alors donc, ce système, ça a été dit plusieurs fois, ce système est un système qui, selon nous, profite à une minorité, le fameux 1% dont on a tant parlé, et ne donne pas à la majorité, ce dont elle a besoin, c'est-à-dire un bon milieu de vie, des bonnes conditions de travail, se sortir de l'endettement personnel, etc., etc. Donc, ça, c'est d'un point de vue général. Mais maintenant, considérons l'ALENA en tant que telle. Hein, et du point de vue du mouvement social, il y a trois aspects sur lesquels j'aimerais insister, trois aspects sur lesquels on est très critique. Premier aspect, c'est le fameux chapitre 11, donc le chapitre sur la protection des investissements étrangers. Bien, nous, on a tendance à considérer que ceci porte atteinte à la souveraineté des États. Et selon nous, c'est quelque chose qui est assez grave. Hein? C'est certainement un des points de vue qu'on a le plus critiqué dans l'ALENA et aussi dans les autres accords commerciaux qui reconduisent un petit peu cette même disposition. Alors, ça donne un pouvoir très grand aux entreprises. Ça leur permet d'intervenir sur des réglementations qui ne les satisfont pas, donc des réglementations qui peuvent, par exemple, être établies tout simplement pour des choses aussi importantes que protéger l'environnement. Alors, ces poursuites coûtent très cher. Alors, en 2010, dernière statistique, le Canada a payé 157 millions de dollars à la suite de ces poursuites. Et il faut ajouter à ça des frais juridiques très élevés, qui sont d'ailleurs une manne pour les bureaux d'avocats spécialisés dans ces questions. Et d'ailleurs, je vais citer un de ses avocats, un dénommé Lars Marquette de la firme Gleiss Lutz. Alors évidemment, c'est des Européens, mais je pense que ça fonctionne de la même manière en Europe et ici. Alors cet avocat a dit « Pourquoi les firmes d'avocats s'intéressent tant aux lois sur l'investissement? » La raison est claire, c'est pour l'argent. Les cas sont incroyablement longs à traiter, incroyablement compliqués, et vous pouvez faire plein d'argent. Bon, ça semble assez clair. Et aussi, le problème avec toujours cette disposition, c'est que ça crée un effet d'autocensure de la part des gouvernements. C'est-à-dire que plutôt que de passer une réglementation, on va se poser la question, est-ce qu'on va risquer de se faire poursuivre là-dessus et on peut renoncer à cette réglementation? Et c'est pas moi qui le dis, vous allez voir, c'est le gouvernement canadien, je cite, le site du gouvernement canadien sur l'ALENA, alors on dit d'une manière très diplomatique, il se pourrait que les gouvernements s'abstiennent tout simplement de proposer des règlements par crainte de poursuite en vertu du chapitre 11 de l'ALENA. Ensuite, autre critique, c'est qu'à l'origine, ce fameux chapitre 11, pourquoi a-t-il été conçu? C'était pour protéger des compagnies étrangères d'une expropriation qui serait arbitraire. Hein? Et bien maintenant, on se rend compte que la portée de ce chapitre 11 est beaucoup plus large, et même les compagnies peuvent poursuivre leur propre gouvernement, ce qui n'était pas du tout le cas à l'origine. Hein? Ils peuvent poursuivre leur propre gouvernement tout simplement en s'incorporant dans un paradis fiscal et en poursuivant le gouvernement de ce paradis fiscal. Hein? Il existe deux causes assez importantes là-dessus. C'est la cause de Abitibi-Bowater, donc qui a poursuivi le gouvernement canadien, et la cause de Lone Pine Resources, qui lui menace de poursuivre le gouvernement canadien. Alors, c'est deux compagnies canadiennes qui poursuivent le gouvernement canadien à partir du paradis fiscal du Delaware aux États-Unis. Donc, ça, c'est rendu possible par l'ALENA, et je pense que c'est une déviation profonde de ce processus-là. Et malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est en voie de disparition. Au contraire, on observe à l'échelle internationale, au niveau des APIE dont on a parlé tout à l'heure, alors, une augmentation de ce genre de poursuites de compagnies qui poursuivent, qui se servent de paradis fiscaux pour poursuivre différents partenaires comme ça économiques. Et pour finir à ce niveau-là, alors le chapitre 11 aussi et tout ce genre de traités bilatéraux sur l'investissement rendent très difficile toute réappropriation d'un secteur de l'économie par l'État. Hein? Alors, je vais vous citer le cas de l'Argentine. Vous allez me dire, oui, mais l'Argentine, c'est pas dans l'ALENA, mais sauf que si le gouvernement aurait les mêmes idées que l'Argentine, bien, on ferait face aux mêmes problèmes. Alors, l'Argentine, qui a pris des mesures énergiques pour se sortir de la crise dans laquelle elle s'était enfoncée, mais l'Argentine a été poursuivie plus de 50 fois. À la fin de 2008, les pénalités contre ce pays ont atteint la somme de 1,15 milliard de dollars américains. Alors, pour un pays qui essaye de se sortir d'une crise, c'est quand même quelque chose d'assez considérable. Donc, pour nous, ce chapitre 11 est quelque chose qui est extrêmement nocif, et ça nous permet de nous questionner sur l'ensemble de ce qui a été négocié dans l'ALENA. Deuxième chose dont j'aimerais parler, c'est la clause de partage proportionnel. C'est la clause 605 dans l'ALENA. Alors, cette clause-là oblige le Canada à exporter ses hydrocarbures aux États-Unis de façon proportionnelle aux quantités vendues au cours des 3 années précédentes. Alors, ça veut dire que toute croissance des exportations lie donc davantage le Canada à son partenaire, et il est astreint de fournir en priorité le marché états-unien, même en cas de pénurie. Alors, on a entendu au cours de la journée que de toute façon, les États-Unis deviennent de plus en plus indépendants, et ça risque pas d'arriver, mais on peut se poser une question importante par rapport à ça. C'est comment peut-on avoir négocié quelque chose de si négatif pour le Canada? Parce qu'on a beau prendre ça de toutes les façons, il semble qu'on aurait négocié de quelque chose de très mauvais. Alors peut-être que ce qui se cache derrière ça, c'est l'espèce de fantasme, hein, d'avoir accès au marché américain. Hein? Alors on s'imagine que par un accord de libre-échange, tout à coup, par un coup de baguette magique, alors l'accès au marché américain va être accessible. Et je peux vous dire qu'on a négocié aussi des choses extrêmement désavantageuses pour le Canada dans la accord économique entre le Canada et l'Union européenne. Donc, on peut se poser la question, pourquoi on fait ça? Eh bien, on fait ça pour avoir un accès. Mais cet accès, est-ce qu'il est vraiment existant? Est-ce qu'on y parvient à cet accès? Eh bien, l'économiste Jim Stanford a calculé quelque chose quand même assez intéressant, que la part des exportations canadiennes aux États-Unis a baissé de 19 à 14% depuis le début de l'ALENA. Donc, on a fait ça pour avoir un accès privilégié. Or, proportionnellement, cet accès au marché américain est moindre. Alors, ça veut dire que, dans le fond, c'est pas du tout de signer un accord de libre-échange qui va nous permettre d'avoir un accès à un marché. Il y a toutes sortes d'autres facteurs dont il faut tenir compte. Mais le problème, c'est quand on négocie les accords de libre-échange, on négocie toutes sortes de clauses, qui ont des conséquences sur les populations, hein, et dont on ne tient pas particulièrement compte. Alors, le troisième aspect dont j'aimerais parler, c'est l'effet sur la population mexicaine. Alors, Alors, c'est souvent ça dans les accords de libre-échange. Hein, c'est très, très avantageux pour les gens qui sont en haut, les classes sociales supérieures, de même que les pays les plus riches. Mais souvent, comme on l'a vu d'ailleurs avec la Colombie, hein, quand on négocie des accords de libre-échange avec des pays qui sont moins bien avantagés, eh bien, au lieu de les sortir de la misère, c'est souvent quelque chose qui rend leur vie encore plus difficile. Alors, le résultat sur le Mexique est vraiment pas très probant. Alors, ne serait-ce qu'au niveau de l'augmentation du PIB, hein, qui est quand même un critère économiste indiscutable. Alors, je vais vous citer l'économiste Mark Weisbrot, qui a dit que sur 20 pays latino-américains, donc Amérique centrale et Amérique du Sud, plus le Mexique occupe le 18e rang avec une croissance annuelle de 1% depuis 1994. Hein, alors donc, on ne peut pas dire que cet accord hein, a été très, très profitable au Mexique. Le salaire minimum au Mexique aujourd'hui est de 150 $ par mois. Hein, alors, on a beau dire que le coût de la vie est plus bas au Mexique, à 150 $ par mois. Alors, on vit une vie extrêmement difficile et évidemment, la concurrence est toujours plus forte entre les travailleurs, ce qui, bien sûr, va réduire les conditions de travail. Alors, on connaît aussi, on en a parlé un petit peu aujourd'hui, l'effet aussi de l'exportation du maïs grassement subventionné américain au Mexique. On sait que ça a affecté profondément la population paysanne qui cultivait maïs, qui n'est plus concurrentiel maintenant. Alors, cette population se retrouve maintenant dépourvue, donc devient une main-d'œuvre vulnérable et facile à exploiter. Et parmi cette main-d'œuvre exploitée, bien, malheureusement, ça va toucher beaucoup les femmes. Et ça, le mouvement social a été très, très sensible aux effets de l'ALENA sur les femmes qui vont se retrouver principalement à travailler dans les maquiladoras qui seront exploitées et qui seront aussi parfois violées et assassinées. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez sombre. Alors, le symbole le plus flagrant de l'échec de l'ALENA à ce niveau-là, c'est bien sûr le mur à la frontière du Mexique. Hein, l'éprouvante démonstration de l'accentuation des inégalités dans ces deux pays. Alors, comme conclusion, ce que je veux dire là-dedans, c'est que sur papier, hein, l'ALENA, de même que les autres accords de libre-échange, peuvent souvent avoir l'apparence d'un succès, surtout lorsqu'on enligne les statistiques favorables. Il est toujours facile de trouver des statistiques qui vont dans le sens de plus d'exportations hein, et donc plus d'argent. Alors, mais ces statistiques vont concerner souvent les entreprises, les exportateurs, et n'indiquent rien sur l'absence de retombées sur les populations. Alors, la détériorisation des conditions de travail, de l'environnement, des services publics sont donc vus comme des externalités, des facteurs qui ne comptent pas devant les profits accumulés par quelques grandes entreprises et quelques individus. Alors, selon nous, eh bien, il faut entièrement repenser le commerce international en fonction des retombées de ses effets réels sur les populations, sur le plein emploi, la qualité de vie, la qualité de l'environnement, etc. Alors, il existe des quantités de propositions qui proviennent des mouvements sociaux qui vont dans ce sens-là, mais elles ne sont jamais entendues dans les négociations des accords de libre-échange. Pourquoi? Parce que ces négociations-là se font en secret, se font avec le moins de consultations possible et sont adoptées aussi d'une manière très, très rapide hein, par des procédés de ratification qui font qu'on est obligé d'adopter l'accord en bloc ou de le refuser. Alors, tout ça pour dire que, selon nous, hein, alors, notre point de vue sur l'ALENA est un point de vue très critique. Ce qui nous inquiète aussi, c'est que le partenariat transpacifique qui s'en vient, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, il est négocié exactement de la même manière et inaugure strictement rien de bon sur les populations. Donc, c'est le même modèle qu'on poursuit tout en le radicalisant d'une certaine manière. Alors, pour nous, évidemment, tout ça, ça devrait se faire de manière plus transparente avec plus de consultations de la part des populations. Alors, voilà, merci.